le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes les bienvenus en ce premier dimanche de septembre. Bon courage aux familles qui préparent la rentrée. Nous portons également en pensée et en prière ceux pour qui la rentrée n'est rien d'autre que la suite d'une solitude. Le Seigneur Jésus est avec vous. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin le pasteur Vincent Nemperon. Bonjour.
Bonjour.
Pasteur Vincent Nemperon, vous êtes président de la commission des ministères de l'Église protestante unie de France. En deux mots, qu'est-ce que la commission des ministères ?
C'est une commission, c'est-à-dire une équipe de 10 personnes qui a 3 missions, qui doit réfléchir sur le ministère pastoral, qui doit discerner parmi les étudiants qui peut être pasteur et qui accompagne les étudiants et les jeunes pasteurs.
Aujourd'hui, le service protestant célèbre le 500e anniversaire de la naissance de Théodore de Bèze, grand réformateur protestant du XVIe siècle. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous à 11h sur France Culture pour le culte en direct du Musée du Désert à Mialet, qui évoquera également cet anniversaire. Pasteur Vincent Nemperon, je vous propose d'entrer maintenant dans le vif du sujet. Qui était Théodore de Bèze, pour ceux qui ne le connaissent pas du tout?
L'une des grandes personnalités de la Réforme, qui est née en 1519 à Vézelay, qui est un homme de son époque, c'est un humaniste, c'est un lettré latiniste, c'est un helléniste, il va écrire aussi des poèmes, il va écrire des pièces plus tard, il va découvrir progressivement la Réforme et il va vivre une grande expérience spirituelle alors qu'il est très gravement malade.
Quand vous parlez de Réforme, vous pouvez préciser un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas du tout la Réforme protestante.
Et donc la Réforme, c'est ce grand mouvement qui, à partir de Martin Luther, va se répandre sur toute l'Europe. C'est un changement de civilisation avec l'imprimerie, la redécouverte des textes fondateurs, à commencer par la Bible.
Début du XVIe siècle, c'est ça à peu près.
Et donc là, on est début du XVIe siècle, 1517 exactement, donc avec Luther. Les premiers grands écrits de la Réforme, on est en 1520, donc à peu près.
La grande idée de la Réforme ?
La grande idée de la Réforme, c'est que c'est Dieu qui vient vers nous pour nous faire grâce et qu'on peut se rapprocher de lui par la foi et qu'on n'a pas besoin d'intermédiaires ou de rites. Les rites peuvent nous être utiles, mais Dieu n'en a pas besoin pour nous accueillir. C'est l'une des grandes idées, il y en aura d'autres. Il y a notamment l'idée que ce qui est au cœur de ce qu'on croit, ce qui en est la source, c'est la Bible. Et que cette Bible, les gens peuvent la lire par elle-même, sans avoir besoin de passer par un clergé, par des sachants.
Alors je vous propose de revenir à notre sujet, Théodore de Bèze, donc qui s'inscrit dans ce mouvement de la Réforme. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu le parcours spirituel et humain de Théodore de Bèze, son parcours à la fois académique, très rapidement, et puis qu'est-ce qu'il a amené aux idées de la Réforme ?
C'est quelqu'un qui donc va suivre Calvin, va être son successeur, va donc s'inscrire dans sa lignée. Et donc pour employer un terme qui est en usage parmi les protestants, c'est un calviniste, c'est un réformé, et on dit ça par distinction avec les luthériens. C'est en même temps quelqu'un qui va œuvrer pour l'unité des églises protestantes d'Europe, qui sont en train de s'émietter, de se diviser, alors qu'elles sont soumises à des pressions très très fortes du côté du pouvoir politique et du côté de l'Église catholique.
Comment il en arrive à la Réforme ? Il y avait un moment avant la Réforme chez Théodore de Bèze, je suppose.
C'était bien sûr qu'il y avait un moment. Il y avait un moment donc avant la Réforme. Il faut quand même se dire qu'il est né en 1519 et que donc Luther a déjà écrit ses thèses. Il fait partie de cette génération qui, comme jeune adulte, connaît déjà les idées de la Réforme.
Génération après Luther, on pourrait dire.
C'est une génération, donc, après Luther.
Dans le parcours de Théodore de Bèze, il y a un moment de basculement spirituel. Je crois lié à une maladie.
Il y a une maladie qu'il va avoir. On ne sait pas exactement laquelle. On pense que c'est la peste. Il se posait déjà des questions, il a été à Bourges, à Orléans, pour ses études, dans des endroits où les idées de la réforme commençaient déjà à se répandre. Il a lu des traités, par exemple l'Origine des erreurs de la célébration du culte divin, qui est écrit en 1529, qui va beaucoup l'inspirer, qui va commencer à le faire réfléchir. Mais c'est cet événement spirituel qu'il a, suite à sa maladie, qui l'encourage à adhérer donc aux idées de la réforme et qui va faire qu'il va quitter la France rapidement.
C'est étonnant ce rapport entre une maladie, quelque chose qui nous bouscule fortement dans notre vie, dans notre chair, et une expérience spirituelle. Ça peut arriver, ça peut s'expliquer aujourd'hui chez des contemporains.
Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient raconter la même chose. Que c'est suite soit à une crise existentielle ou à une maladie, des moments où on est prêt à remettre en cause les fondements de son existence et de ce qu'on croit, que certains décident de basculer vers autre chose. Et donc, pour lui, ça va être les idées de la réforme. Et je pense aussi, comme lettré, que toute cette insistance de la réforme sur le retour à l'écrit, sur l'écriture, sur la traduction, puisqu'il faut être capable de lire la Bible donc en latin et en français, donc la traduire du grec et de l'hébreu.
C'est ça, en fait, Théodore de Bèze était un grand lettré. Ça, c'est une caractéristique. Il maîtrisait le latin, le grec, il était poète.
Poète, il avait beaucoup d'humour, il a écrit aussi des satires qui étaient absolument redoutables. Il a écrit des recueils de poèmes qui n'étaient pas du tout des poèmes chrétiens et qui parlaient d'amour. Il a écrit ou il va écrire une pièce de théâtre. Et il va, ça sera l'un de ses apports, il va donc traduire et versifier les psaumes. Il ne sera pas tout seul à le faire, il va le faire avec Clément Marot. Et ensemble, ils vont donc traduire et versifier les 150 psaumes du Premier Testament. Ce qui permettra de constituer le psautier huguenot, qui continue à avoir une grande influence dans la piété protestante, encore aujourd'hui, 500 ans plus tard.
Donc on voit bien que l'homme de lettres, finalement, a beaucoup apporté avec tout son bagage académique aux idées de la réforme de manière très concrète. Vous parliez d'une mise en vers des psaumes. Il y a aussi une traduction du Nouveau Testament, je crois.
Il y a une traduction du Nouveau Testament avec toute une série de notes qui sont très précises. Il y a des prédications qui sont d'une érudition fantastique. Il y a des commentaires de livres bibliques, en particulier le livre de Job. Et il y a, j'allais dire, surtout son travail de recteur, puisqu'à l'Académie de Genève, il va former d'innombrables pasteurs qui ensuite vont partir dans toute l'Europe et qui vont contribuer à essaimer cette pensée protestante.
Donc Théodore de Bèze, homme de lettres, professeur aussi, homme de transmission, et également homme d'action, puisqu'il a participé activement au développement des églises réformées. Quelles ont été ses grandes réalisations dans le domaine ?
Il se préoccupera de défendre les églises protestantes françaises qui sont de plus en plus menacées. Il va se rendre à Nérac, dans le sud de la France, pour rencontrer le roi de Navarre, puisqu'à l'époque, la Navarre ne fait pas partie du royaume de France. Il participera donc au colloque de Poissy, où devant la cour royale, il défendra les idées de la réforme.
Donc on était à une époque où le protestantisme était menacé, où on était dans les guerres de religion, hein.
Où le protestantisme était donc menacé, où il était relativement donc important et présent dans toutes les classes de la société, y compris dans l'entourage même du roi. Et il aura une autre préoccupation, qui est de lutter contre ce morcellement, ce risque de morcellement du protestantisme. Et il va servir en quelque sorte d'ambassadeur pour notamment éviter cet émiettement donc entre les luthériens, les zwingliens, les calvinistes, sur des questions théologiques comme autour de la Sainte Cène, de la présence réelle du Christ. Des questions qui pour lui ne sont pas secondaires, mais sont secondes.
Théodore de Bèze, on peut dire, facteur d'unité, déjà pour le protestantisme divers à cette époque, et qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs.
C'est en tout cas quelqu'un qui le tente, et on peut pas dire que c'était une réussite totale, parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas, ni d'un côté, ni de l'autre, malheureusement. Mais il y a cet effort, il y a cette conviction que le protestantisme est uni par une même compréhension de l'écriture et par des grands principes théologiques. Et que cela l'emporte sur des divergences qui ont toujours lieu, d'ailleurs actuellement, ça fait partie de la diversité protestante.
On a encore des Théodore de Bèze qui cherchent l'unité dans le protestantisme aujourd'hui ?
Il y en a toujours eu. Quand j'ai étudié pour cette émission qui était Théodore de Bèze, ça m'a fait penser à un autre grand théologien du XXe siècle, qui est Karl Barth, et qui donc à la fois a été un homme de culture, un homme de foi bien sûr, qui a été un théologien mais aussi un homme d'action.
Alors je vous propose maintenant d'écouter un psaume mis en vers justement par Théodore de Bèze, le poète, le réformateur. Vincent Nemperon, vous avez choisi quel psaume en particulier ?
J'ai choisi le psaume 67 et que nous allons donc entendre dans le français de l'époque, puisque c'est une traduction de Théodore de Bèze.
Dieu nous est doux et favorable, nous bénissons de sa part sa bonté et de son visage.
Théodore de Bèze est aussi connu, pasteur Vincent Nemperon, pour un sujet un peu plus difficile à entendre aujourd'hui, la prédestination. En deux mots, qu'est-ce que c'est ?
Le plus simple, c'est d'entendre Calvin qui en parle et qui dit « Nous appelons prédestination le conseil éternel de Dieu par lequel il ordonne les uns à la vie éternelle et les autres à l'éternelle perdition ».
Alors c'est le plus simple et à la fois ça demande peut-être une explication en français courant.
L'idée que Dieu aurait décidé selon des critères qui lui appartiennent et que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons même pas forcément, que certains hommes seraient sauvés et que d'autres ne le seraient pas.
Alors quand on parle de sauver, on parle aussi de salut, on fait référence à être sauvé maintenant. Dans notre vie, on fait référence à un salut dans la vie éternelle. On parle de quoi ?
Le terme dans la Bible a plusieurs significations. Mais dans les débats de l'époque, on pense peut-être principalement à la vie après la mort.
En quoi la question du salut après la mort, de l'enfer, du paradis, pour le dire très très simplement, avait un écho très particulier au XVIe siècle, pasteur Vincent Nemperon ?
Si cette question a un écho tout particulier, c'est parce que, d'abord, la mortalité est très très grande. Et on a une existence qui est d'une telle précarité que la question de l'au-delà de la vie est presque plus importante que la question de la vie elle-même.
Donc la question se posait particulièrement à Théodore de Bèze également. Pourquoi il a défendu avec tant d'insistance cette idée de la prédestination ?
S'il la défend, c'est d'abord parce que il la lit dans la Bible. Il la lit dans des lettres, et notamment celle de Paul aux Éphésiens, où il est question explicitement de prédestination. Il y attache de l'importance aussi parce que il n'est pas le premier à émettre cette idée parmi les grands réformateurs, mais Jean Calvin va défendre cette idée, va l'exposer dans l'institution de la religion chrétienne, va lui donner une importance de plus en plus grande au fur et à mesure qu'il réédite cette institution. Et Jean Calvin est attaqué sur cette question-là. Il est attaqué par ses adversaires qui disent en gros « Mais où est la liberté humaine ? » Et ce Dieu devient donc un Dieu donc arbitraire. Si certains sont prédestinés à être sauvés et d'autres sont prédestinés à être condamnés, donc indépendamment de ce qu'ils font, donc à quoi ça sert de donner des sacrements ? À quoi ça sert de bien se comporter dans l'existence ? et même à quoi ça sert de se convertir.
J'ai envie de vous retourner ces questions. Comment vous y répondriez ?
Que c'est l'affaire de Dieu.
C'est une belle formule.
Que c'est de sa liberté. Il serait profondément donc injuste que les êtres humains soient jugés suivant leurs actes. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des personnes qui ont été tellement, comment dire, maltraitées par la vie, qu'elles sont devenues maltraitantes, et que ça serait leur faire subir une double peine de les punir éternellement. Et qu'en plus, un Dieu qui nous punirait pour nos mauvaises actions ne ressemble pas du tout à celui que Jésus nous fait connaître. Et que d'ailleurs, c'est la même chose avec la conversion. Il y a des gens fantastiques qui recherchent Dieu de tout leur cœur, qui ont développé toute une spiritualité, mais qui ne l'ont jamais rencontré. Et d'autres qui ont pu se comporter comme des ordures durant leur existence, et qui, à un moment ou un autre, ont été saisis par lui.
Mais est-ce que Calvin, Théodore de Bèze et tous ceux qui se retrouvent dans cette idée de la prédestination ne vont pas un peu plus loin, voire un peu trop loin ?
Je vous suis volontiers là-dessus. Et ils ne respectent peut-être pas tout à fait cette intuition donc importante qu'ils ont, que c'est l'affaire de Dieu, que c'est la liberté de Dieu, et que la liberté de Dieu va autoriser notre propre liberté. Ils ne suivent pas tout à fait ça. Et je pense qu'ils sont emportés, mais c'est aussi dans le contexte de, qu'est-ce qu'on peut dire, de polémique, de justification.
Parfois, essayer de comprendre Dieu, c'est se mettre à sa place un peu trop.
C'est ce que Calvin donc avait bien compris, ce qu'il a eu du mal à accepter. Il s'est aussi laissé entraîner par son tempérament, et probablement Théodore de Bèze également.
Comment ça peut apporter quelque chose à l'homme contemporain, se dépréoccuper de son salut, pasteur Vincent Nempéron ?
Déjà, ça lui apporte quelque chose en l'amenant à faire confiance à Dieu pour ce qu'il adviendra de lui, donc qu'au-delà de sa mort. Mais ça a donc également donc un impact important sur la façon dont il va considérer sa vie. On entend dire bien souvent que l'homme moderne n'est pas préoccupé par le salut. Mais c'est tout à fait l'inverse.
On parle de quel salut, là ?
Le salut de... tout à fait.
Des deux saluts, toujours.
Là,
vous parlez toujours un peu des deux
saluts, mais on va parler notamment de cette obsession contemporaine de réussir sa vie. De trouver qui on est. Et on a presque trop pris au sérieux l'enseignement des antiques qui était « connais-toi toi-même ». Et c'est devenu une forme d'obsession de se connaître, de savoir qui on est, quel est son projet de vie. Il y a maintenant des coachs de vie et qui sont censés vous aider à accoucher de vous-même et à réussir votre existence. Et on est vraiment dans cette grande préoccupation, cette grande angoisse contemporaine. Il faut que je sois moi-même. Et le paradoxe, c'est que le moi-même qu'on cherche à être, c'est celui qui nous est dicté de l'extérieur.
Mais derrière ces comportements, il y a une recherche de sens, il y a une recherche de bonheur, une recherche de vie. Comment y accéder autrement en cherchant la réussite aujourd'hui et maintenant ?
La grande promesse de l'évangile, déjà, c'est que le bonheur, ou en tout cas la joie, parce que la joie, à la différence du bonheur, ne dépend pas des circonstances de l'existence. On a tous des moments dans notre existence qui sont plutôt agréables et d'autres plutôt désagréables. On ne peut pas avoir que du bonheur dans l'existence. Par contre, on peut avoir de la joie. Et la joie ressemble davantage à un courant, ces courants marins, donc en profondeur, qui ne dépendent pas des marées et qui ne dépendent pas des vagues. L'une des promesses de l'Évangile, c'est que la joie, c'est de connaître le Dieu de Jésus-Christ et d'essayer de le suivre dans son enseignement, qui se résume en deux phrases. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
On pourrait presque entendre « arrête un peu de te préoccuper de toi-même, de ta réussite, de ton salut, et vis tout simplement, aime les autres.
» Et donc aime les autres, n'oublie pas Dieu, et tu peux vivre dépréoccupé de toi, mais dans ce que Paul Ricoeur appelait une tranquille estime de soi. Et se demander, la réponse sera différente suivant les moments de sa vie, lequel des éléments de ce trépied se trouve fragilisé. Il y a des moments où on aura besoin de retisser, de restaurer une estime de soi qui aurait été fragilisée parce qu'on aura traversé des moments difficiles. Il y a des moments où c'est la relation avec les autres qui est abîmée. Il y a des moments où c'est la relation avec Dieu qu'on a laissé s'effilocher.
qu'est-ce qu'on trouve de bon dans la relation avec Dieu? Peut-être vous pouvez donner là votre témoignage personnel. Qu'est-ce que vous trouvez de bon dans la relation avec Dieu?
S'il fallait donner trois mots, ça serait la joie, d'abord, j'en ai parlé. Ça serait l'espérance. Donc l'espérance, ça paraît être un mot pieux, mais l'espérance, c'est cette conviction qu'il y a toujours un avenir possible, qu'il y a toujours une porte de sortie, qu'on n'est jamais condamné à être dans les mêmes impasses et que le pire n'est jamais sûr.
Joie, espérance.
Et le troisième, c'est l'amour. Alors, et donc derrière l'amour, je mettrais la bienveillance. Puisque le mot amour en français veut dire tellement de choses différentes que quand Jésus parle de l'amour du prochain, je pense qu'on peut le traduire par bienveillance, une bienveillance active.
Je vous invite maintenant à partager un moment de prière avec vous, pasteur Vincent Nemperon.
Et une prière de Théodore de Bèze, l'un des derniers textes qu'il a écrit avant sa mort. Maintenant, mon Dieu, puisqu'il t'a plu dans ton grand amour d'accomplir le haut mystère de notre rédemption, je te supplie, accorde-moi d'en ressentir le fruit et l'efficacité, par la puissance de ton esprit et jusqu'au dernier souffle de ma vie. Il est vrai que le souvenir de mes péchés me trouble grandement. J'ai ainsi négligé ce précieux trésor, la croix même de mon Rédempteur. J'ai été faible dans la foi, lent dans l'espérance, froid en amour, plus raide à retenir les offenses des hommes à mon égard que prompt à leur pardonner. Et que puis-je dire encore, mon Dieu, si ce n'était la confiance que j'ai en ta miséricorde? Et par cette lumière céleste, je contemple avec les yeux de mon esprit le navire qui me transportera de la terre au ciel, ne me trouvant pas plus éloigné de la présence de mon Rédempteur que ne l'étaient ses disciples, lorsque, ramant contre la tempête, il leur dit « Ne craignez pas, c'est moi ».
Voici qu'il est agréable,
qu'il est doux,
pour des frères nous demeurer ensemble.
Voici
qu'il est agréable,
qu'il est doux,
pour des frères nous demeurer ensemble. Qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron.
Voici
qu'il est agréable,
qu'il est doux,
pour des frères de demeurer ensemble.
Voici
qu'il est agréable,
qu'il est doux,
pour des frères de demeurer ensemble.
C'était un extrait de Pat Bernings, de son album Psaume, qui reprend comme Théodore de Bèze en son temps le psaume 133, cette fois-ci au goût du XXe siècle. Chantez à l'Éternel un chant nouveau, tel est le cri du psalmiste. J'étais en compagnie du pasteur Vincent Nemperon, président de la commission des ministères de l'Église protestante unie de France. Merci à Vincent Nemperon d'avoir accepté notre invitation. Le service protestant est proposé par la Fédération protestante de France, présenté aujourd'hui par Benjamin Bories. Merci à Nicolas Berger pour la réalisation et à Pierre Monteil pour la prise de son. Vous pouvez écrire au service protestant, 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Pour retrouver le podcast et le texte de l'émission, rendez-vous sur franceculture.fr ou protestantaupluriel.org. Restez à l'écoute de France Culture pour les informations à 9h, suivi à 9h10 de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. À 11h, je vous rappelle une prise d'antenne exceptionnelle pour la retransmission en direct du culte du Musée du Désert. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie d'Olivier Betty pour Culture Protestante. Et il sera encore question d'un anniversaire. Comme quoi, et c'est bien connu, les protestants ont le goût et l'art de la fête. Bonne journée à vous sur France Culture.